France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 12 France.
Depuis lundi, nous sommes là. On a une délégation environ de 30 à 40 voitures qui descendent par jour, qui viennent donc des Hautes-Alpes pour renforcer les effectifs des Marseillais. Aujourd'hui, on lâchera rien. On n'a pas envie de lâcher parce qu'on se rend compte que notre combat, déjà, il est essentiel. Nous, on se bat à la fois pour la profession des taxis, mais nous, dans les Hautes-Alpes, on se bat aussi, en fait, pour garder l'accès aux soins de nos clients. Dans les Hautes-Alpes, on est loin de tout. On fait énormément de routes et aujourd'hui, la nouvelle convention va nous mettre à mal parce qu'on va être beaucoup moins payés. Alors ouais, peut-être les gens ils vont finir par mourir et les économies là seront faites.
Ce qui a été demandé comme effort, c'est 150 millions. Donc vous voyez qu'on est sur un effort qui est de 2%. Donc c'est pas un effort colossal. Et pour nous, c'est très important parce que nous voulons répondre aux Français sur des situations qui sont des situations d'abord de vieillissement de la population. Deuxièmement, nous combattons les déserts médicaux, mais ils existent. Et en particulier dans les zones rurales, il faut que l'accès aux soins des plus isolés et des plus malades soit assuré. Donc on a besoin de ces transports sanitaires. Les taxis représentent presque la moitié de ces dépenses et c'est des dépenses qui ont progressé de 43% en 4 ans. Il y a donc là un petit frein à mettre pour garder la qualité du service aux Français.
C'était ce midi sur l'antenne de nos voisins de France Inter, Frédéric Grandperrin, secrétaire général des artisans taxis des Hautes-Alpes. Ici, dans une opération de blocage de la gare Saint-Charles à Marseille, déroulent les raisons de la colère de sa corporation qui manifeste depuis déjà 5 jours dans plusieurs villes de France contre le projet de modification de la tarification des transports sanitaires de patients. Activité essentielle dans le chiffre d'affaires de certains artisans. En réponse, Sophie Prima, porte-parole ici à la sortie du Conseil des ministres ce matin, réitère la position d'équilibriste du gouvernement. Il faut faire des économies dans un contexte budgétaire contraint sans toucher la qualité de la prise en charge de la santé de nos concitoyens. Est-ce vraiment possible? Comment construire une offre de soins pour tous et toutes alors que notre population vieillit, tout en contrôlant la dépense publique? Comment rationaliser la géographie hospitalière sans dégrader la prise en charge? Comment travailler l'attractivité des déserts médicaux? L'équation semble inextricable. À l'instar des artisans taxis conventionnés, les médecins libéraux aussi sont en colère. Mi-mai, 2 propositions de loi ont été adoptées, l'une au Sénat, l'autre à l'Assemblée. Le projet sénatorial soutenu par le gouvernement prévoit une mission de solidarité territoriale obligatoire et impose ainsi 2 journées d'exercice dans les zones prioritaires. Quant à l'installation dans une zone attractive, elle sera conditionnée au départ d'un confrère de la même spécialité. Un encadrement qui a provoqué l'ire des représentants des étudiants en médecine. Cette proposition mettra à mal l'attractivité de la médecine libérale, qui est aujourd'hui le premier rempart du système de santé. En attendant, les déserts médicaux sont devenus un marronnier de la presse française et l'accès à la santé est devenu la première préoccupation des citoyens, année après année. Alors au sommaire de 12 France ce soir, de Laval à Grenoble, l'accès aux soins en crise. Venez, je vous emmène. Bonsoir Caroline Brémaud.
Bonsoir Nora.
Vous êtes médecin urgentiste, ancienne chef de service aux urgences de Laval. Vous les avez quittés en 2003, mais vous travaillez toujours à Laval.
C'est tout à fait, oui, je suis toujours médecin là-bas.
Vous avez signé « État d'urgence, le quotidien d'une femme en lutte pour l'hôpital public ». Ça a paru au Seuil il y a quelques semaines, où vous racontez, mais au-delà même des chiffres, une expérience humaine très forte qui tire parfois les larmes en attendant. Enfin, moi, ça a été mon cas. Donc, on est ravis de vous recevoir, Caroline Brémaud. Et en duplex avec nous, Pierre-André Juven, bonsoir.
Bonsoir Nora Amadi.
Vous êtes sociologue spécialiste des politiques de santé, chargée de recherche au CNRS. Vous avez co-signé le casse du siècle à propos des réformes de l'hôpital public. C'est apparu chez Raison d'agir en 2019. Et aussi Pandémo politique, réinventer la santé en commun chez La Découverte en 2021. J'ajoute par ailleurs que vous êtes élu, vous êtes adjoint à la santé à la mairie de Grenoble, mais vous n'êtes pas encarté. Et donc vous êtes bien ici, vous vous êtes présent dans cette émission au titre de votre expertise de sociologue. On est ravis en tout cas de vous recevoir, Pierre-André Juven. On l'entendait à l'instant, hein, les taxis donc sont en colère. Ils ont tenu une réunion demain au ministère des Transports en présence du Premier ministre François Bayrou. Ils demandent l'ouverture d'une discussion avec le gouvernement sur ces réformes, hein, de la tarification des transports sanitaires. Mais on parle quand même de 6,76 milliards d'euros, dont 3 milliards pour les taxis conventionnés, plus 45% depuis 2019. Est-ce qu'on peut entendre, Caroline Brémaud, que le gouvernement souhaite mieux contrôler cette dépense ?
Non, c'est pas entendable parce que ça fait déjà pas mal d'années qu'on demande à faire des efforts sur les transports sanitaires. Donc les efforts, ils sont déjà faits depuis longtemps et ça va toujours être les mêmes personnes qui vont trinquer. Ce sont les plus fragiles, les personnes qui ont le moins de ressources, qui sont dans les milieux ruraux, un peu isolés, qui vivent reculés du centre-ville parce que c'est trop cher les loyers. On a aussi, depuis un certain temps, un accès aux soins qui est limité parce qu'on ferme en fait les maternités de proximité, on ferme certains services et donc finalement on isole de plus en plus les gens et si on leur coupe l'accès au transport, on va les isoler encore plus.
Ce que vous êtes en train de nous dire, et j'aimerais bien vous entendre Pierre-André Juven là-dessus, Caroline Brémaud par exemple, à Laval en Mayenne, qui est un territoire qui est évidemment un désert médical, mais comme une grande partie désormais des territoires français, on a fermé des structures et on s'étonne ensuite que le coût du transport sanitaire explose. C'est bien ça, Pierre-André Juven ?
Oui, c'est ça. Et derrière, il y a un contexte de gestion de la pénurie de la part du gouvernement, en même temps qu'une volonté d'imposer une contrainte budgétaire. Alors, on y reviendra sans doute, mais qui n'a rien de très nouvelle. Et cet effet ciseau entre pénurie des professionnels de santé, raréfaction des structures de soins, et là aussi, on va y revenir dans des structures notamment rurales. Et par ailleurs, une volonté d'économiser sur notamment les dépenses de santé, ça aboutit à cette situation actuelle où on en vient même à faire des économies sur les conséquences des mauvaises réformes qui ont été engagées il y a de cela 20 ou 30 ans. Et évidemment que ça génère et ça accroît des inégalités d'accès aux soins, des inégalités qui sont déjà très criantes dans notre pays. Là aussi, on en redira un mot, mais on est dans un pays, la France, où l'offre de soins, l'accès aux soins est extrêmement inégal et a un impact évident sur l'accès à des traitements et sur ce qu'on appelle la perte de chance pour un certain nombre de patients et de patientes.
Qu'est-ce que ça veut dire justement, Caroline Brémaud, la perte de chance quand on est comme cet artisan taxi qui représentait donc les Hautes-Alpes, quand on est si loin en fait dans une zone où on va prendre l'exemple de la Mayenne, dans lequel qu'est-ce que ça peut représenter en fait ce manque d'accès aux soins.
En fait, il y a certaines situations où chaque minute compte. Chaque minute compte pour sauver une vie. Et puis, il y a des situations qui sont un peu plus sournoises où, en fait, c'est chaque minute compte pour sauver une qualité de vie. C'est-à-dire qu'on ne va pas se rendre compte parce que la personne n'est pas décédée, mais comme elle a été prise en charge tardivement, elle aura plus de séquelles de sa pathologie. Par exemple, si vous faites un infarctus et qu'on vous prend en charge 15 minutes plus tard que ce qu'on aurait dû, eh bien, votre cœur va être plus fatigué, vous allez garder une insuffisance cardiaque. Si vous faites un AVC et qu'on vous prend en charge pareil, 30 minutes ou une heure plus tard que ce qui était prévu, le traitement qu'on va vous administrer va vous permettre d'aller mieux, mais vous allez peut-être garder un bras qui ne fonctionne pas. Voilà. Et donc, c'est l'espérance de vie en bonne santé en fait, qui diminue.
Et j'imagine, si on reprend l'exemple par exemple des Hautes-Alpes, avec une population vieillissante qui serait par exemple sous dialyse ou sous chimio, et donc ça veut dire descendre à Marseille ou à l'hôpital de Martigues, donc c'est 3 heures de route chaque jour potentiellement, c'est aussi ça l'enjeu, c'est avoir une offre de soins à proximité, qui permettent aussi une qualité de vie aux patients, parce que là, j'imagine que 6 heures par jour pour une dialyse ou pour une chimio, ça représente aussi un effort.
C'est la dialyse, c'est 3 fois par semaine. Donc, vous imaginez, si vous avez 3 fois par semaine, 6 heures de transport à faire, certaines chimios sont quotidiennes. Les séances de radiothérapie sont quotidiennes du lundi au vendredi pendant souvent 5 semaines. C'est extrêmement fatigant pour les patients. Et évidemment, ça joue sur le processus de récupération.
Pierre-André Juven, c'est pas si nouveau, finalement, alors, cette situation ?
Non, ça n'a rien de nouveau. Sans vouloir être un oiseau de mauvais augure, il y a des chances pour que ça dure encore un peu quelques années. Parce que transformer un système de santé, ça prend plus qu'un an ou deux. C'est des processus qui sont assez longs. Hein. C'est des transformations de l'action publique et des institutions qui ne se font pas du jour au lendemain. Ça touche évidemment le système hospitalier. Dans son ensemble, hein, il faut quand même rappeler que la France a bénéficié dans la deuxième moitié du XXe siècle d'une expansion assez considérable de ses dépenses de santé. On est passé de 2,5 à 9% de la part du produit intérieur brut consacré aux dépenses de santé, et ça a eu pour conséquence une amélioration très nette de la condition de vie des Français et des Françaises, avec une augmentation de l'espérance de vie d'à peu près 15 ans. Alors c'est évidemment pas que les seules dépenses de santé qui contribuent à cette augmentation, mais c'est quand même un déterminant absolument majeur. Et tous les progrès qu'on a fait en un demi-siècle, à partir des années 80, on va les voir progressivement être affaiblis jusqu'à être très clairement détériorés.
Et par exemple, alors, on parle de points de PIB, oui. Ça veut dire que vous voyez une baisse ou pas?
Alors c'est un petit peu plus subtil que ça, c'est ce qui permet d'ailleurs aux différents gouvernements ces 20 dernières années de dire qu'ils augmentent les moyens consacrés à la santé, parce que dans l'absolu, les moyens consacrés à la santé augmentent, mais ils augmentent de façon très contenue et bien moins que les besoins. Et donc, ce qu'on observe ces dernières années, c'est une décorrélation. C'est le collectif Nos Services Publics, hein, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Une décorrélation des besoins en santé et des moyens qui lui sont consacrés. Que ça soit des moyens de fonctionnement pour le personnel, les outils de travail, ou les investissements. Et la rénovation, par exemple, des hôpitaux, ou encore même la construction de structures. Et notamment, on en parlait de structures de proximité. Et tout ça conduit, mécaniquement, à une dégradation des conditions de travail à l'hôpital, et notamment à l'hôpital public, à une vacance importante de postes à l'hôpital public. Hein, la Fédération hospitalière de France, donc, qui représente les hôpitaux publics, pour le dire rapidement, estime à près de 30% la vacance de postes à l'hôpital, avec des départs aussi régulièrement de soignants et de soignantes. En 2020, après la pandémie, ils estimaient à peu près 12 000 soignants qui auraient quitté l'hôpital, avec un sentiment très important qu'il faut bien comprendre, c'est celui de ce qu'on appelle la qualité empêchée. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de professionnels de santé qui expliquent qu'ils ont la conviction du travail qu'ils font, ils ont la vocation du travail qu'ils font, ils sont même prêts à faire ce travail-là pour des revenus qui, dans le cas des paramédicaux, sont des revenus relativement bas, mais par contre, ils ne peuvent pas faire leur travail correctement, voire, ce que disent certains et certaines, ils se sentent maltraitants.
Alors justement, l'hôpital public est en souffrance, et ce depuis de nombreuses années. Pourtant, à ce jour, et malgré les Grenelles, les Ségur, les plans, la prise en charge des patients reste une gageure. Florilège par Camille Mathy.
On prend tout, l'hôpital prend tout, tout. On est obligé de tout absorber, ouais. La ville, tout, et l'hôpital est en train de mourir.
Dans tout le pays, les soignants décrivent des services qui ne tiennent qu'à un fil. Une situation qu'Emmanuel Macron promettait pourtant d'arranger l'année dernière.
Et d'ici la fin de l'année prochaine, nous devrons avoir désengorgé tous nos services d'urgence.
Le passage aux urgences est toujours plus long, c'est ce que dit une enquête du ministère de la Santé menée en juin 2023 et dont les résultats nous parviennent aujourd'hui. Entre le moment où vous vous enregistrez et votre sortie, que ce soit pour rentrer chez vous ou pour être hospitalisé, eh bien on compte en moyenne plus de 5 heures, et c'était 4 heures il y a 10 ans.
J'ai attendu au moins 10 heures la dernière fois que je suis allée aux urgences, et on n'a pas le choix d'attendre.
On est prêt, quoi, à rester plusieurs heures.
J'ai emmené une fois mon mari aux urgences et il est resté de 14h jusqu'à 3h du matin.
Aujourd'hui, je me suis occupée d'une patiente qui était là depuis 2 jours. Quand elle est partie dans le service, là, elle est partie il y a moins d'une heure dans le service adapté. C'était aussi un AVC. Elle a attendu sa place pendant 2 jours.
En fait, on est dans un abysse. C'est-à-dire que le système de santé s'est totalement cassé la figure.
Le cauchemar, il a commencé quand on a commencé à nous dire « il va falloir que vous produisiez du séjour », alors que nous, on avait l'habitude de prodiguer des soins. Et on s'est mis à voir comme chef de service des tableaux Excel tous les mois, où on nous disait « Ah, là, bravo, vous êtes en vert, vous avez fait plus de séjours. Ah, c'est pas bien, vous êtes en rouge, vous avez fait moins 10 séjours. » On a peur parce que quand notre activité baisse, on nous supprime des moyens.
Le Premier ministre réclame aux ARS des efforts budgétaires sur les établissements de santé. Pour autant, ce n'est pas l'hôpital public au secteur sanitaire et médico-social qui doit payer pour le déficit organisé par le gouvernement depuis 2017.
En 2017, vous avez fermé 4 900 lits. En 2018, 4 200 lits. En 2019, 3 100 lits. En 2020, 5 700 lits fermés. Vous battiez votre record dans le lit fermé en pleine année Covid.
Nous avons tous conscience du contexte budgétaire exigeant dans lequel nous évoluons. La responsabilité nous oblige à articuler deux impératifs majeurs, garantir la protection sociale et redresser nos finances publiques.
Et finalement, cette somme-là de la sécurité sociale, où vous avez des milliards d'euros qui ne répondent à aucun marché financier, sur lequel vous n'avez pas des actions, des dividendes, une mise comme ça d'argent et de capital qui ne correspondent pas au marché, c'est impensable pour des gens comme ça.
Et pourtant, la France est loin d'être au sommet du classement des pays de l'OCDE pour le niveau de vie. Nous ne sommes que 16e pour le PIB par tête en 2022. Or, une politique de rééquilibrage des dépenses publiques, politique à nos yeux nécessaire, est possible, comme le montrent les comparaisons internationales. Beaucoup de pays plus développés que nous, du point de vue de l'épanouissement de leurs citoyens, de l'éducation, de la santé, ont fortement réduit leurs dépenses publiques lorsqu'elles ont été menacées de déséquilibre.
Et donc, petit à petit, on vient détricoter la sécurité sociale, l'hôpital public, comme le reste des services publics, hein, pour augmenter la part privée. Alors qu'on sait très bien aujourd'hui que plus il y a une privatisation des services de santé, plus les inégalités de santé augmentent et plus le taux de croissance aussi d'un pays est mauvais.
Seule une prise de conscience de nos concitoyens, seule la confrontation les yeux ouverts avec la vérité de notre situation peut soutenir une action déterminée. Rien ne serait possible sans leur soutien, et leur soutien ne viendra que de leur pleine information. Et je suis optimiste, moi qui pense que ce pays accepte la vérité, qu'il est prêt à prendre la résolution inflexible de guérir, et qu'alors il guérira.
Alors il guérira, nous dit le Premier ministre François Bayrou. Caroline Brémaud, dans votre livre « État d'urgence » donc paru au Seuil, qui est sous-titré « Le quotidien d'une médecin en lutte pour l'hôpital public », c'est ce que vous racontez, mais c'est ce que vous racontez à hauteur de soignants, à hauteur de patients. Et derrière ces chiffres du nombre de lits, de la tarification à l'acte, du manque de moyens, ce sont les conséquences directes sur les patients, sur la prise en charge, sur les soins et sur, du coup, la possibilité d'une vie en bonne santé.
En fait, si je vous raconte des chiffres, si je vous dis on a fermé des lits en pédopsychiatrie, vous allez me dire « ah oui, c'est malheureux, c'est triste », et puis on va passer à autre chose. Si je vous raconte l'histoire de ma fin de garde où je passe 13 minutes avec une maman au téléphone parce que le collège vient de l'appeler et qu'elle découvre son enfant pendu dans la chambre parce que le collège a appelé pour dire pourquoi l'ado est pas là, et que pendant 13 minutes, le temps que les secours arrivent, je reste en ligne avec elle pour pas la laisser seule, et que pendant ces 13 minutes, je l'écoute, j'écoute sa peine, son chagrin, sa colère, sa culpabilité. Elle dépense son enfant, elle refuse de le masser parce qu'il est froid. Un mois avant, elle me raconte qu'il a fait déjà une tentative de suicide et qu'on a prescrit plutôt un rendez-vous en externe parce que ça devrait le faire, parce qu'il y a plus grave. Elle y a cru, elle s'est dit on va réussir à s'en sortir comme ça. Mais en fait, on n'a pas les moyens actuellement d'hospitaliser tous nos adolescents en détresse.
C'est ce que vous dites en fait. Ouais. C'est que quand elle vous le raconte, vous savez que le psychiatre qui l'a reçu, en fait, n'a pas de lit à offrir.
C'est ça. Il n'a pas de lit, et donc c'est pas qu'il est convaincu que ça va aller, c'est qu'il n'a pas d'autres possibilités. Et donc, quand je vous dis qu'on ferme des lits, vous me dites « Ah oui, c'est triste », mais quand je vous raconte la souffrance d'une maman, sa peine éternelle, ces 13 minutes sur cette fin de garde où je suis au téléphone, enfin, moi, j'ai raccroché et j'ai pleuré, sincèrement. Parce que je me dis, mais où est-ce qu'on est? On n'est même pas capable de prendre en charge nos enfants suicidaires. Quel est ce pays dans lequel j'ai étudié, qui m'a donné plein d'espoir quand j'ai commencé? Et là, je me dis, mais à quoi je sers?
Pierre-André Juven, c'est aussi important peut-être de remettre de l'humain dans cette question. C'est vrai qu'elle n'est pas nouvelle, cette question de la crise du système de santé français. Et pourtant, malgré toutes les alertes, et ce depuis près de 20 ans, voire plus encore, cela n'a pas empêché cette dégringolade que vous décrivez dans votre ouvrage, dans vos ouvrages. Comment est-ce que, enfin, peut-être est-ce que cette question de l'humain est centrale ?
Elle est centrale, et pour reprendre l'expression de François Bayrou qu'on entend dans votre montage sur la vérité de notre situation, on peut la regarder depuis les lunettes de François Bayrou, qui regarde très attentivement les comptes et les budgets de la Sécurité sociale, et puis on peut aussi les regarder à travers les lunettes de Caroline Brémaud et de ce qu'elle vient de raconter. Et ces deux effets de cadrage qui disent deux choses très différentes, et ce que vient de dire Caroline Brémaud est absolument cruciale, c'est-à-dire que derrière des décennies de réformes. Alors je reviendrai sur cette question des lits, parce qu'il y a une subtilité que les différents gouvernements essayent de faire passer, qu'il faut être capable d'expliquer, mais juste bien prendre la mesure de ce que dit le président de la République quand il dit que d'ici un an, nous aurons réussi à désengorger les urgences. Il faut vraiment toute l'hubris présidentielle pour croire à la performativité de son discours dans de telles proportions. C'est absolument impossible. Je pense que personne autour de lui n'a pu à aucun moment donné lui dire bien sûr que dans un an, les urgences seront désengorgées.
Mais ça veut quand même peut-être aussi dire qu'il y a une véritable prise en compte de ce sujet au plus haut niveau de l'État.
C'est une vraie question. Alors oui, effectivement, depuis 2020, il est très difficile pour les responsables politiques de contester la situation de l'hôpital public et plus largement de notre système de soins. Mais il faut rappeler, et c'est vraiment très important, qu'en 2019, avant la pandémie, a lieu un des plus grands mouvements sociaux de l'hôpital, de l'histoire de l'hôpital public, avec le collectif Interurgence, le collectif Interhôpitaux, qui interpelle de toutes les façons possibles et imaginables la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui ne les entend pas, qui ne les reçoit pas personnellement, alors qu'encore une fois, le mouvement social est massif. En novembre 2019, finalement, le Premier ministre et Agnès Buzyn décident d'un faux plan d'urgence pour l'hôpital, jouant avec les chiffres comptables pour indiquer des investissements nouveaux. Et c'est la pandémie de Covid-19 qui vraiment met le gouvernement face à un hôpital public dans une situation de délabrement absolu, et qui oblige à concéder aux personnes qui alertaient depuis 10, 15, 20 ans qu'elles avaient raison.
Mais par exemple, si on prend cette idée de fermer des hôpitaux, de fermer des infrastructures, la question des maternités s'est invitée ces derniers mois dans l'actualité. Et le 16 mai dernier a été adopté à l'Assemblée nationale un moratoire de 3 ans sur ces fermetures. La proposition de loi portée par le groupe Liotte a été adoptée en première lecture à l'Assemblée avant son passage au Sénat, parce qu'il a été question justement de faire ce lien entre l'augmentation de la mortalité infantile et le recul du nombre de maternités, même si ce lien n'est pas démontré. Il était de 3,5 pour 1000 en 2011. Il est désormais de 4,1 décès pour 1000 en 2024. Dans certains départements, type le Lot, il faut 1h30 pour relier la maternité. Ça veut bien dire, Caroline Brémaud, que voilà, cette mobilisation, cette question, elle a peut-être été entendue par les législateurs. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, je suis pas sûre. Je pense qu'on est toujours face à des effets d'annonce. En fait, si vous reprenez les archives, tous les ans, on nous dit la même chose. Tous les ans, on nous dit qu'on va abandonner la T2A. Tous les ans, on nous fait des vœux.
La tarification à la T2A. Ouais.
Et donc, je pense que quand le torchon brûle, le gouvernement met la santé dans ses priorités. Et puis, du coup, ça apaise les gens, ça calme un peu les choses. Et puis après, il ne se passe plus rien. Et je ne suis pas convaincue qu'il y ait une vraie prise de conscience, parce que sinon, il y aurait déjà eu des plus grosses réformes. Et je pense qu'au contraire, il y a un certain intérêt pour entretenir la pénurie.
Pourquoi il y aurait un intérêt pour entretenir la pénurie ?
Alors, je vais être désagréable, mais vous avez le Conseil de l'Ordre qui vous dit qu'en 2040, on sera trop nombreux. Mais nous, en fac de médecine, on nous dit qu'on est l'élite. On nous nourrit à ça dès la deuxième année de médecine. Vous êtes l'élite, vous êtes les plus importants, vous avez le droit à tout, vous êtes les rois du monde. Et si on entretient...
On vous dit ça en études de médecine ?
Ah oui, on nous dit ça dès la deuxième année. Et on est nourri à ce discours. Et donc, si on entretient la pénurie, ça veut dire qu'après, on est en position de force pour négocier. Je vais vous raconter une histoire. Il y a eu le SAS, le service d'accès aux soins, là, qui s'est mis en place pour avoir des consultations d'urgence organisées par les médecins libéraux. Et c'est une très bonne chose. Mais un jour, j'ai une dame qui appelle au 116-117 pour avoir un rendez-vous pour son bébé qui a 40 de fièvre.
Vous êtes aussi par ailleurs médecin régulateur.
Exactement. Mmh. Et elle dit, on lui dit, est-ce que vous avez appelé votre médecin traitant ? Et elle répond, oui, je l'ai appelé. Il m'a dit qu'il n'avait pas de rendez-vous à me donner, mais que si je passais par ce numéro-là, il me donnerait j'aurais un rendez-vous et j'aurais même un rendez-vous avec lui. Sauf que si elle passe par ce numéro-là, il facture 15 euros de plus.
Ah oui.
Donc tous les médecins ne sont pas comme ça. Loin de là. Mais ceux qui parlent le plus fort, ceux qui décident, ceux qui sont le plus haut placés, ont une vision de la médecine qui est très portée sur l'économie et la finance.
Pierre-André Juven, cette dimension justement que nous décrit Caroline Brémaud, corporatiste et où on sent qu'il y a une forme d'intérêt privé, est-ce que vous l'avez constaté ?
Ça dépend des médecins, ça dépend des disciplines, ça dépend des types d'activités et de structures. Moi, paradoxalement, je serais un petit peu moins pessimiste que Caroline Brémaud. Je pense qu'il y a de fait une gestion de la pénurie actuellement, que cette pénurie, elle a été organisée plus ou moins volontairement. Avec une, et il faut expliquer pourquoi, avec une croyance très forte chez les réformateurs de la fin du XXe siècle, dans les années 80 et 90, et encore plus au début des années 2000, qu'il fallait désengorger l'hôpital, que le soin devait se faire en dehors de l'hôpital, et que en diminuant les moyens de l'hôpital public, je fais synthétique, en diminuant les moyens de l'hôpital public, on allait faire reporter tout un tas de populations vers la médecine de ville. Or, au même moment, la médecine de ville était elle aussi en train d'entrer dans une crise. La crise de la démographie médicale en ville, elle n'est pas du tout récente. Entre 2010 et 2013, on avait déjà perdu 15% de généralistes. Donc c'est quelque chose qui est absolument pas nouveau. Et ce report des patients de l'hôpital vers la médecine de ville, il n'a pas pu se faire. Donc on a une médecine de ville qui a été fragilisée, un hôpital public qui a été fragilisé, et évidemment que les patients, quand ils sont en situation de besoin de santé, ils se dirigent vers l'hôpital public. Que cette pénurie, elle soit réelle et qu'elle ait été organisée, c'est un fait. C'est là où c'est difficile, mais qu'il y ait aujourd'hui des tentatives pour gérer la pénurie, c'est quand même une nécessité aussi. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur le moyen et le long terme des solutions pour remettre des soignants derrière les bureaux, pour refaire de la santé publique, et on en redira un mot un petit peu plus tard. Mais il faut aussi être capable, malgré tout, d'organiser cette pénurie sur le moment. Et les services d'accès aux soins, même s'ils ont tout un tas de défauts, et s'ils peuvent être utilisés à mauvais escient, ils ont quand même permis à un certain nombre de personnes d'accéder à des soins, de la même façon que on y reviendra. La proposition de loi qui a été faite justement de proposer 2 jours de solidarité pour les médecins ou de réguler l'installation dans des zones qu'on dit des zones denses. Alors il faudra aussi qu'on dise ce que sont des zones denses, parce qu'il y a des zones qui sont denses mais qui sont très, très inégalement dotées, on va dire, une fois qu'on regarde à l'intérieur de ces zones-là. Ces mesures-là, à temps, à instant T, si je puis dire, elles sont d'une certaine façon indispensables, avec une nécessité aussi, qui est d'entendre ce que disent les médecins, et les médecins libéraux notamment, et notamment les généralistes, qui, pour beaucoup, sont des gens qui travaillent quand même énormément, et qui disent on n'a pas à être les seuls moteurs de correction des réformes qui sont engagées depuis des décennies. Et sur ce point-là, on peut pas non plus totalement leur donner tort. La nécessité de mieux réguler l'installation, et notamment territoriale, doit aussi aller de pair, voilà, avec forcément une stratégie de moyen et de long terme.
Vous écoutez Douce France par Nora Amadi sur France Culture.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Bonsoir. Plusieurs mois d'attente dans certaines régions pour un simple rendez-vous chez l'ophtalmo, un manque d'internes criant dans certaines spécialités pourtant appelées à se développer, comme, et ce n'est qu'un exemple, la cancérologie. En tout cas, vous êtes un certain nombre à poser la question et proposer des éléments de réponse. Certains même s'inquiéter. Pourra-t-on, à terme, à moyen terme, éviter une espèce de désert médical en France ?
Le téléphone sonne.
Evelyne à Saint-Brieuc en ligne. Bonsoir Evelyne.
Bonsoir.
On vous écoute.
Donc moi j'avais une idée pour les retours des médecins dans nos campagnes.
Laquelle ?
Bah, puisque ce sont des anciens étudiants dont les études ont été financées par la société. Ils exercent une profession libérale, entre guillemets, puisqu'ils sont payés quand même par la sécurité sociale, donc c'est de l'argent public.
Oui.
Alors au même titre que nous envoyons nos professeurs et nos fonctionnaires en général faire leur début dans la région parisienne, on les envoie à 3 ans, 4 ans, et ils n'ont pas leur avis à donner, hein. N'imposerions-nous pas aux médecins de s'installer 4 ou 5 ans aussi, eux, par contre, eux, dans les campagnes, et c'est tout aussi bien.
Voilà, c'était le 25 septembre 2007 et vous aurez reconnu la voix d'Alain Bédoué et l'ancien générique du téléphone sonne de France Inter. Donc, je disais tout à l'heure en ouverture de cette émission que finalement cette question est un peu devenue un marronnier. Déjà en 2007, cela nous occupait. Est-ce que ça veut dire, Caroline Brémaud, que on n'a pas voulu voir, on n'a pas souhaité anticiper, ou est-ce que vous n'étiez pas d'accord avec le propos de Pierre-André Juven qui nous disait tout à l'heure, il faut peut-être pas non plus que les médecins soient les dindons de la farce. C'est peut-être effectivement quelque chose de plus systémique.
On n'a pas voulu voir, on a même, je sais plus si c'est il y a 10 ans ou il y a 20 ans, je crois que c'est il y a 20 ans, on a même donné de l'argent aux médecins pour qu'ils partent plutôt à la retraite. Donc à un moment donné, on a fait plus que pas voir. Après, moi, je suis plutôt pour la régulation d'installation des médecins. Et ce qui me dérange dans la loi, c'est plutôt les 2 jours à faire par mois.
Ouais, on va y revenir.
Parce qu'en fait, les patients ne sont pas des paquets. Ce sont des êtres humains. Et qu'est-ce que vous allez raconter de votre vie privée, votre vie intime, de vos états d'âme
À
quelqu'un qui est de passage, complètement. Mm-hmm. Et je trouve que c'est une déshumanisation totale du soin. Le meilleur médicament, c'est l'humain. Et ça, c'est une réforme, je pense, qui est contre-productive.
Pierre-André Juven, qu'est-ce que ça dit de cette anticipation nécessaire sur ces questions ? Ça fait 20 ans, finalement, qu'on s'intéresse aux déserts médicaux sans avoir véritablement réussi à trouver une parade, à gérer cette pénurie. Comment vous l'expliquez ?
Bon, d'abord, j'ai pas souhaité dire que les médecins libéraux avaient tout bon dans la défense
qu'ils ne sont pas les seuls responsables.
Ils ont une part à assumer forcément dans la situation qui est celle que nous connaissons aujourd'hui. Ils sont un certain nombre à accepter cette part-là aussi. Pas que les médecins libéraux d'ailleurs. Hein. Il y a des médecins qui sont salariés, des généralistes qui montent des centres de santé justement pour répondre à ce besoin d'avoir un parcours du patient qui soit le plus intégré possible. Donc, il y a une partie du corps médical qui a conscience de ces enjeux et qui est prêt à prendre sa part. Il y a une autre partie qui refuse absolument tout changement. Ça, c'est tout aussi vrai. Ce qui est sûr, c'est que cette pénurie médicale en médecine de ville, hein, ce qu'on appelle la médecine de ville, c'est la médecine hors médecine hospitalière, elle est effectivement assez ancienne. Elle est le fait de plusieurs raisons. La première, c'est ce fameux numerus clausus mis en place au début des, enfin, dans les années 70. Suite aux mobilisations de mai 68, il faut se souvenir, c'est Marc-Olivier Desplaudes, un sociologue qui avait écrit sur le sujet, qui rappelait que un des acteurs qui a demandé le numerus clausus, ce sont les médecins eux-mêmes, parce qu'ils avaient peur de la concurrence. Donc ça se retourne effectivement aujourd'hui contre ce corps professionnel. Le numerus clausus, forcément, a un impact. Il a rangé tout le monde. Pour les médecins, ça a évité de la concurrence. Pour le ministère des Finances, ça a évité des dépenses de santé. Et on voit aujourd'hui, effectivement, le contre-coup de cette mesure.
Le contre-coup parce que, quoi, les besoins ont augmenté?
Les besoins ont augmenté, les besoins ont changé. Aussi, on en parle souvent hein, de cette transition épidémiologique qui fait que on a une prévalence de maladies chroniques de plus en plus forte, de maladies neurologiques de plus en plus fortes également. Également qu'on a un changement de pratique du côté des professionnels de santé. On parle souvent de la féminisation du travail, des changements aussi des modes de vie des jeunes générations de médecins qui, contrairement à ce qu'on entend souvent dire, ne rechignent pas à la tâche, mais souhaite un équilibre vie professionnelle, vie personnelle qui soit un petit peu plus absorbable. Et donc, on peut considérer que le nombre de médecins a diminué. On peut aussi étudier ça sous le prisme du temps médical, ce qui est un enjeu assez, assez important. C'est-à-dire qu'on peut avoir un nombre de médecins équivalent, mais si les médecins travaillent moins, et c'est presque souhaitable, c'est-à-dire que les généralistes qui faisaient 60, 70, 75 heures par semaine, avec au passage des répartitions du travail domestique et parental très inégal dans une profession qui était essentiellement masculine, fort heureusement que c'est remis en cause aujourd'hui. Et donc le temps médical disponible est bien moins important. Et donc ça suppose, et c'est très important, ça suppose une réorganisation du travail de soins et de mettre le médecin, et notamment le médecin généraliste, à un endroit qu'il peut assumer et de ne pas lui faire tout porter. Et donc ça suppose, et là les médecins généralistes, les médecins libéraux, un certain nombre s'opposent à la montée en compétence d'un certain nombre de professionnels, comme les infirmiers et les infirmières qu'on dit en pratique avancée. Et là, c'est une erreur, par contre, de la part d'une partie des médecins libéraux, de s'opposer à cette montée en compétences. Parce que, de fait, dans une situation de pénurie, il va falloir mieux répartir le temps médical. Et donc, il va falloir des professionnels qui puissent appuyer les généralistes, notamment.
Mais coupez-moi, Caroline Brémaud, si je me trompe, mais ce dispatching, ce temps médical, justement, mieux organisé, est-ce que c'est pas peu ou prou le système hospitalier? Enfin, le temps médical du médecin aujourd'hui, il est à l'hôpital, organisé aussi à l'aune de ce que peut faire et l'infirmière, par exemple.
Oui, on travaille en équipe beaucoup, on délègue, on a des délégations de tâches. Le problème, c'est qu'actuellement, on nous force à déléguer avec un cadre législatif qui n'est pas opérationnel. Donc, pour vous donner un exemple, il y a de moins en moins de médecins pour partir en intervention à l'extérieur de l'hôpital. Et ce qui fait que la voiture du SMUR, donc la voiture qui part en intervention, des fois, elle part sans le médecin. Elle part avec l'infirmier ou infirmière anesthésiste et l'ambulancier. Et donc, ils ont des protocoles d'application, sauf qu'un patient, ce n'est pas une case et que des fois, on est en dehors des protocoles.
Donc là, qu'est-ce qui se passe pour le patient?
Il sécurise le patient, il nous appelle, il nous explique la situation. Et nous, au téléphone, au 15, on leur dit, fais tel médicament, c'est hors protocole, mais c'est ce qu'il faut faire, Sauf que ils sont pas couverts par le cadre législatif. Donc, c'est très bien de donner... Moi, je suis pour les infirmiers en pratique avancée. Je suis pour donner plus de responsabilités à nos collègues infirmiers. Mais il faut absolument les protéger et les sécuriser dans leur pratique.
Et par exemple, ça voudrait dire que là, ce que vous appelez de vos voeux, c'est finalement une meilleure prise en charge. Mais l'objectif, ce serait quand même d'avoir un médecin, j'imagine, qui parte sur chaque cas d'urgence.
En fait, il faut la bonne équipe au bon moment. C'est-à-dire que quand il n'y a pas besoin de médecin, eh ben, il faut accepter qu'on ne soit pas indispensable. Il faut remettre son ego dans sa poche et dire là, j'apporte pas de plus-value. Mmh.
Et laisser... Et ça, c'est culturel, c'est ce que je comprends dans ce que vous dites.
Complètement. Et laisser l'équipe à deux au lieu de trois gérer. Et ça, il y en a beaucoup qui ont du mal à se dire qu'ils peuvent ne plus être indispensables.
Alors justement, lutter contre les déserts médicaux, c'est une question donc qui nous occupe depuis au moins deux, voire trois décennies. Et ces dernières semaines, un premier coup de boutoir a été donné dans la sacro-sainte liberté d'installation des médecins libéraux. Et c'est Camille Maty qui nous plonge dans les débats.
On nous dit qu'il faut aller dans les déserts médicaux, mais toute la France est un désert médical. On va rien résoudre du tout. On va obliger les gens à quitter leur cabinet, leurs patients, leur famille. Enfin, on est des êtres humains.
On en a un peu marre et puis il faut aussi penser à la santé mentale des médecins. Il y a beaucoup de médecins en médecine rurale qui se suicident à cause du manque de soutien en fait et de la charge de travail.
J'ai une petite cinquantaine de mes patients qui ont trouvé un nouveau docteur dans le coin, qui ont accepté de les prendre par connaissance, parce
et
que...
les autres ?
Ah ben ça va faire, nous on a plus de 3500 patients.
On avait mis des annonces pour trouver des associés depuis 4 ans. Hein. On n'a pas été sans rien faire. Là ça fait un an qu'on met des annonces tous les mois sur les sites dédiés aux remplaçants. Pas d'appel, zéro.
Ça fait 15 ans que je suis malade. Un AVC.
Vous avez trouvé un remplaçant là ?
Du tout.
Où c'est qu'on va aller maintenant ?
Il faut répondre aujourd'hui à cette grande détresse de millions de Français qui n'ont pas de médecin près de chez eux. Et c'est vécu comme une terrible injustice quand vous savez votre médecin part à la retraite et qu'il n'est pas remplacé, quand il faut des mois pour avoir un rendez-vous chez l'ophtamo, chez le dermato, et plus qu'une injustice encore, avec un terrible sentiment d'abandon, abandon par la République finalement. Donc c'est à ça qu'il faut répondre aujourd'hui. Et notre proposition de loi, qui est co-signée par 255 députés, elle vise à actionner tous les leviers, à ne s'interdire aucune solution contre les déserts médicaux.
Voilà, on entendait Guillaume Garot, député de Mayenne, justement, qui est donc la circonscription, enfin c'est là où vous vivez, Mayenne-Laval. Et par ailleurs, c'est votre voisin, c'est ce que vous
dites. C'est mon voisin, oui. On a beaucoup échangé en fait avec Guillaume. C'est quelqu'un qui est très au fait des problématiques de santé. Il est souvent venu à l'hôpital. On a souvent passé du temps ensemble pour décortiquer. Et il comprend très bien la situation. C'est quelqu'un qui maîtrise le sujet de la santé.
Oui, alors du coup, sa proposition de loi a été votée à l'Assemblée nationale. Et dans le même temps, une autre proposition de loi, celle-ci, portée par les LR, par l'élu républicain Philippe Mouillet des Deux-Sèvres et quelques 140 autres sénateurs, a été adoptée cette fois au Sénat. Et c'est ce texte que le gouvernement a souhaité plutôt pousser. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire quand même Pierre-André Juven, on le disait tout à l'heure, enfin, le changement de paradigme, il est quand même peut-être aussi réel. Cette question de la coercition des médecins, il n'en a jamais été question depuis 20 ans.
Alors, il en a été question depuis même plus longtemps que ça, mais effectivement, à chaque fois qu'il en est question,
le ministre en charge dit qu'il n'en veut pas.
Exactement. Les syndicats médicaux refusent d'aller sur ce terrain et les ministres en responsabilité refusent d'activer ce levier. Ça a été valable pour tous les ministres de la santé. Peut-être que c'est là où il faut affiner un petit peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire que dans le montage sonore qu'on a entendu, on entendait des médecins dire on va venir m'arracher à mon cabinet pour aller me déposer dans une zone où j'ai jamais vécu. Les propositions de loi en l'état actuelle des choses ne propose pas ça. Elle propose, pour des nouveaux médecins arrivants, de ne pas autoriser des installations en zones qu'on considérerait comme des zones denses. Encore une fois,
Pour être précis, donc c'est effectivement, il faudrait qu'il y ait un départ dans la même spécialité pour qu'ils puissent s'installer dans ces zones denses. Mais par ailleurs, il y a cette logique en fait de solidarité, de mécanisme de solidarité, qui implique d'aller passer deux jours dans un territoire sous-doté.
Voilà. Alors, il y a les deux choses. Mais en tout cas, sur l'installation dans les zones denses, c'est bien pour les nouveaux arrivants. Et puis par ailleurs, des départs de médecins en retraite, on les a déjà dans des zones denses avec des milliers de patients qui perdent aussi leur médecin. Donc la situation n'a rien de nouveau. Ce qui est important, c'est à mon avis, puisque bon, on fait un diagnostic là depuis trois quarts d'heure de la situation, qui est un diagnostic assez sombre, c'est de voir qu'il y a quand même un certain nombre de leviers. Et notamment, parmi les leviers, j'en reviens à mon histoire de temps médical, indépendamment du nombre de médecins, il y a un certain nombre d'acteurs de la profession médicale qui relèvent aujourd'hui que de plus en plus de médecins font de la téléconsultation, et une téléconsultation qui n'est pas forcément une téléconsultation bonne pour la santé, pour le dire rapidement. Il y a tout un tas d'acteurs qui s'accordent à dire que la téléconsultation peut être très efficace et très intéressante quand c'est, par exemple, avec votre médecin traitant qui vous connaît bien, quand c'est pour un renouvellement d'ordonnance. Enfin, il y a des situations où la téléconsultation peut tout à fait se justifier et économiser à la fois du temps au patient et au médecin. Mais il y a tout un tas d'autres situations où la téléconsultation conduit en général le patient à chercher un rendez-vous avec un médecin en présentiel dans la foulée, parce que la première consultation ne lui a pas permis de se soigner correctement. Et donc là, il y a un enjeu à remettre beaucoup de temps médical qui se trouve en téléconsultation dans les cabinets. Et de la même façon, on en parle assez peu, il y a tout un tas de structures qui prospèrent sur les ruines de la médecine de ville, qui sont des structures de soins non programmés, des groupes assez richement dotés, qui achètent des locaux dans les communes pour plusieurs millions d'euros, et qui font donc ce qu'on appelle du soin non programmé, et qui là aussi accaparent du temps de médecins qui font de la consultation à la chaîne, qui font de la prescription d'ordonnance très rapidement, et là aussi avec des effets sur la santé qui sont complètement contre-productifs. Et l'assurance maladie a ciblé ces centres de soins non programmés comme un enjeu important à corriger. Donc il y a des leviers pour retrouver du temps médical, au-delà de la contrainte d'installation. Et puis un dernier point, pour mettre aussi une note un petit peu plus positive sur ces histoires de médecine de ville, on voit aussi quand même depuis quelques années une multiplication assez nette du nombre de ce qu'on appelle des maisons de santé pluriprofessionnelles, donc des regroupements de libéraux. On voit aussi la défense très forte des centres de santé, donc là où cette fois-ci les soignants sont salariés, et où là on a des professionnels de santé qui défendent une vision de la santé qui est une vision très intéressante, puisqu'elle vise à prendre le patient dans tout son parcours
et surtout fonctionner en pluriprofessionnalité
qui lui est bénéfique.
Et fonctionner en collectif. Caroline Brémaud, vous vouliez réagir?
Oui, je voulais réagir sur les centres de soins non programmés. Le problème avec les centres de soins non programmés, c'est qu'en fait, on perd de la compétence médicale. C'est-à-dire que ces centres-là, ils trient les patients. Ils choisissent que les plus simples, les plus faciles, les plus rapides, où il y a besoin de très peu d'examens complémentaires, contrairement à nous, aux urgences de l'hôpital, où on prend tout le monde. Sauf que ces centres de soins non programmés, la plupart du temps, attirent des urgentistes. Parce que l'activité, elle est agréable, c'est bien rémunéré. Et on travaille souvent, pas toujours la nuit. Souvent, c'est que la journée et pas le week-end. Donc, ils sont attractifs. Et en fait, les urgentistes, avec une compétence d'urgentiste, partent pour travailler dans les centres de soins non programmés, alors qu'il n'y aurait pas forcément nécessité d'avoir cette spécialité-là.
En fait, ça devient une concurrence pour les services d'urgence.
Complètement. Mmh. Mais ça peut aggraver une situation qui est déjà sous tension.
Caroline Brémaud, vous qui êtes finalement un agent du service public, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent, et c'était un peu le propos de cette dame dans le téléphone sonne en 2007, qui disait, mais en fait, à un moment, il faut en finir avec la liberté d'installation. Est-ce qu'il faut aller plus loin et faire comme dans certains pays, des médecins, des agents?
Oui. Complètement. Alors moi, je suis assez à l'aise avec ça. Je vais, j'ai pas de problème pour être désagréable. Je suis pour le salariat.
C'est le cas, par exemple, dans certaines communes qui mettent en place des centres municipaux de santé.
Complètement. Je vais vous donner un exemple. Mon ex-mari, le père de mes enfants, il fait une spécialité où il travaille pas la nuit, il travaille pas le week-end, et il paye en impôts ce que je gagne par an. Je dis pas que c'est lui qui gagne trop, je dis pas que je gagne pas assez, je dis que la différence entre nous deux, elle est délétère pour le service public. Même mes enfants de 9 ans sont capables de le dire en disant « mais c'est pas juste que papa il gagne beaucoup plus que toi, parce que toi, tu travailles la nuit, le week-end, et en plus tu sauves des vies. » 9 ans. Et ça fait même plusieurs années qu'ils le disent, donc ils étaient même beaucoup plus petits. Donc, Il faudrait en fait un salariat, on est médecin, on a un salaire, on est bien payé, on fait une garde, on gagne temps, on fait des nuits, on gagne temps, point. Et il y en a marre en fait de cette course à l'échalote de l'argent. Est-ce que vous croyez sincèrement par rapport à une aide à domicile qui ne gagne pas grand-chose que c'est un médecin qui a besoin d'avoir le loyer gratuit pour son lieu d'exercice ? Enfin, je trouve ça totalement injuste. Moi, avant de signer pour être titulaire, j'étais contractuelle, j'étais éligible à un contrat praticien, clinicien motif 2. J'aurais pu gagner deux fois ou deux fois et demi ce que je gagne, mais ça me faisait gagner plus que ma collègue qui est à 6 mois de la retraite, et j'ai refusé de signer ce contrat pour lequel j'étais éligible. J'ai refusé de gagner plus parce que je voulais être capable de me regarder dans une glace. Mais on peut pas, en fait, jouer comme ça avec la carotte de l'argent tout le temps pour tirer la couverture. Non, à un moment donné, il faut arrêter, il faut remettre les choses bien à plat, proposer un salaire correct, mais faire du salariat pour tout le monde. Et là, on verra qu'il y aura peut-être des nouvelles vocations pour certaines spécialités en souffrance.
Mmh. Pierre-André Juven, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, là, il y a beaucoup de discussions sur le sujet. Le salariat a des vertus qui sont assez démontrées notamment pour la stabilité des équipes médicales et encore une fois pour les conditions de vie aussi des soignants. C'est-à-dire que il n'y a pas cette pression de la tarification à l'acte pour la médecine de ville et donc la possibilité de prendre le temps avec les patients. Alors avec une contrepartie qui est que la plupart, par exemple, des centres de santé polyvalents qui exercent sur le modèle du salariat sont dans des situations financières qui sont systématiquement déficitaires aussi parce que ce sont des structures qui opèrent dans les quartiers populaires et que les inégalités de santé font que les publics que ces centres de santé ont à prendre en charge sont des publics pluripathologiques avec de nombreuses maladies chroniques, avec des questions qui touchent à leur vie et pas seulement à leur maladie qu'il faut aussi être capable de traiter, avec un soutien parfois à l'accompagnement administratif qu'il faut être capable de réaliser. Et donc, ce sont de vraies solutions pour lutter contre les inégalités sociales de santé. Et ça, il est possible pour les pouvoirs publics de renforcer le soutien aux centres de santé. La Fédération nationale des centres de santé y appelle très, très régulièrement. Et ça a évidemment plein de vertus. Moi, je voulais quand même insister sur un point, parce que... Ouais, on balaye les enjeux de l'offre de soins, de l'hôpital public à la médecine de ville, et c'est quelque chose d'assez important que de disposer de plus de soignants. Ce qu'il faut toujours avoir en tête sur ces questions-là, c'est qu'on est un des pays, alors, et là sur ce point, la France est assez peu douce, hein, pour reprendre le titre de votre émission, mais elle est plutôt cruellement injuste, où les inégalités de santé sont les plus fortes. On a 13 ans d'espérance de vie entre les hommes, les 5% des hommes qui ont les revenus les plus hauts et ceux qui ont les revenus les plus bas. 13 années d'espérance de vie en moins. On a les 10 plus modestes ont 3 fois plus de chances de risquer de développer du diabète que les 10% les plus aisés. Et je passe sur tous ces chiffres, mais c'est pour dire qu'on peut mettre autant de médecins qu'on veut, on peut organiser autant la structure de soins qu'on veut, si on continue à avoir une société qui ferme les yeux sur les violences, qui ferme les yeux sur la crise du logement, qui ferme les yeux sur les dégâts que font les écrans. Exactement. On aura des problèmes de santé publique qui continueront d'exploser. Et donc, on ne peut pas décorréler la question de l'offre de soins de la question de la santé, au sens plein du terme.
De l'hôpital à la médecine de ville, le combat des médecins pour de meilleures conditions de travail passe notamment par l'image. Bonsoir Antoine Dulster.
Bonsoir Nora, bonsoir à tous.
Dans votre chronique cette semaine, vous vous penchez justement sur les représentations de la médecine sur les écrans.
Oui Nora, parce que nous avons tous en tête une figure de médecin héritée de la fiction, figure souvent très humaine ou même carrément sacrificielle. Il faut dire d'un mot que ces images sont en fait assez récentes. Pendant longtemps, la profession médicale est caricaturée à la façon des médecins de Molière, modèle de Charles latanisme. En 1951, donc au XXe siècle, c'est encore cette vieille représentation qui s'incarne sous les traits de Louis Jouvet, alias Dr Knock, artisan du triomphe de la médecine, avec cette formule en guise de programme.
Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent.
Et ces malades qui s'ignorent sont bientôt conscients du mal qui les ronge grâce aux bons soins du Dr Knock.
De quoi souffrez-vous ?
Quand j'ai dîné,
oui ?
Eh ben, y a des fois,
que je sens comme une espèce de démangeaison ici. Ça me chatouille, ou bien plutôt, ça me gratouille.
Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille?
Ah, ça me chatouille. Mais ça me gratouille bien un peu aussi.
Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette?
Bon, j'en mange jamais. Oh, mais il me semble bien que si j'en mangeais...
Oui, oui, oui.
Eh bien, effectivement, ça me gratouillerait plus.
Ah. Voilà, inoubliable Louis Jouvet dans un film de 1951 adapté d'une pièce de Jules Romain. Plus près de nous, il faut mentionner un grand rôle d'Annie Girardot dans un film de Jean-Louis Bertolucci en 1976. Docteur Françoise Gaillan, figure moderne d'une femme médecin confrontée à une maladie grave. Ce personnage vaut un César à l'actrice malgré les difficultés de ce projet qui aborde un sujet délicat et un monde médical très austère.
Et je me souviens qu'on disait qu'on vraiment faire un film sur le cancer, etc. C'était déjà, on n'aura pas trois fauteuils. Et deuxièmement...
Avec les médecins, ça ne marche jamais.
Avec les médecins aussi.
Voilà, ces quelques mots très brefs d'Annie Girardot disent beaucoup de l'image qui est encore celle du monde médical à la fin de ces années 1970. Il faut attendre encore de longues années pour que ces représentations évoluent avec une série américaine qui révolutionne les codes dans les années 90. Voilà, vous aurez. Voilà.
On y a passé des dimanches soirs.
Voilà, Nora, vous aurez reconnu évidemment le générique de la série Urgence, porté par de grands personnages de médecins, dont un certain George Clooney en Dr Ross. Avec cette série, la médecine devient plus accessible, plus humaine, souvent tragique aussi, et parfois même drôle. Bien d'autres séries débarquent des États-Unis et les années suivantes. On pourrait citer Grey's Anatomy ou le Dr House. En France, ces codes narratifs extrêmement efficaces marquent toute une génération. L'image du monde médical se réinvente, par exemple dans le film puis la série Hippocrate, signée tous deux de Thomas Lilti. Quelques notes issues du générique, là encore, de cette série sur le quotidien et les réalités très dures du monde hospitalier. Un monde que Thomas Lilti, lui-même ancien médecin, a bien connu.
Moi, j'ai beaucoup d'affection pour les gens qui travaillent à l'hôpital, les médecins, les infirmières, les aides-soignants, le personnel administratif. Mais par contre, j'ai constaté tout au long de mes études et après même de ma pratique des dysfonctionnements, quoi, des choses qui ne fonctionnent pas ou la complexité en tout cas de la tâche. Comme je fais dire dans le film, quoi, la médecine, ce n'est pas qu'une vocation, c'est presque une malédiction. Donc voilà, c'est très compliqué d'être médecin et c'est ça que j'ai voulu raconter aussi.
Voilà, Thomas Lilti au micro de nos confrères de France 3 Lorraine en 2014. Alors Pierre-André Juven, un monde sépare ces archives que nous venons d'entendre. La médecine est devenue plus humaine, hein, je le disais, sur les écrans ces dernières années. Les caricatures du monde médical semblent s'affaiblir depuis qu'on prend conscience de la crise de la médecine. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que vous partagez ce constat?
Je serais en mal de faire une analyse aussi fine que vous sur les évolutions des représentations sur le grand et le petit écran. Ce qui est sûr, c'est que les crises que connaît le système de santé sont de plus en plus présentes dans les représentations littéraires ou artistiques. Et c'est pas un hasard, c'est que peu de gens y échappent. Et je pense que ça sera peut-être un mot de conclusion de mon côté, c'est que aujourd'hui, rares sont les personnes qui ne font pas l'expérience à un moment ou à un autre d'une entrée plus ou moins forte à l'accès aux soins et à une bonne santé. Et ce qui se joue derrière, et c'est ce pourquoi il faut continuer de se battre, c'est la justice sociale et l'accès à une santé pour toutes et tous.
Alors Caroline Brémaud, très rapidement, s'il vous plaît, en France, c'est assez frappant, hein, beaucoup de récits sur la médecine sont issus de ce monde médical. Par exemple, les films de Thomas Lilti qu'on entendait il y a quelques instants. Est-ce qu'il faut être issu de ce sérail pour être légitime à parler du monde de la médecine?
Je ne sais pas si c'est suffisant. C'est une question qui est difficile que vous me posez. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on me dit souvent que je ressemble pas à un médecin. Donc ça, je ne sais pas à quoi doit ressembler un médecin. Quelle est la caricature du médecin
Mais c'est peu ou prou ce que vous faites en fait dans votre livre.
Oui.
Vous auriez pu.
J'aurais pu l'écrire plus compliqué. Il n'y a aucun mot difficile. C'est parce que je le voulais grand public et on me dit souvent, en fait, quand tu parles, on te comprend et c'est pour ça qu'on t'aime bien.
Ouais. Et c'est aussi quelque chose en fait qui pourrait être adapté en série. Enfin, c'est-à-dire que vous proposez des tableaux qui sont extrêmement humains et ça, c'est important de représenter cette réalité-là.
Oui, parce qu'en fait, moi, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me donne envie d'être médecin tous les jours. L'humain, en fait, il y a que ça qui m'intéresse. Et je pense que si y a autant d'intérêt pour les séries ou les films qui portent sur la santé, c'est parce que ça fait vibrer et c'est un idéal on rêve, ça fait partie des professions qu'on rêve de faire quand on est petit, pompier, infirmière, docteur, vétérinaire, tout ce qui a trait aux soins en fait. Et donc on vend du rêve. Après, c'est plus compliqué, mais on vend du rêve.
On vend du rêve et surtout, en fait, on prend soin. Et c'est peut-être ça dont on a besoin, une société qui prend soin les uns des autres. Et le symbole est là. Merci, Caroline Brémaud. Votre livre, il faut absolument le lire, État d'urgence, le quotidien d'une femme en lutte pour l'hôpital public. Pierre-André Juven, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Grenoble, le casse du siècle à propos des réformes de l'hôpital public et pandémopolitique, réinventer la santé en commun. On est en retard, donc je dis merci à Antoine Dulcer qui a préparé cette émission, à Camille Maty qui l'a réalisée. À la technique, c'était Élise Leu. Très bonne semaine à tous. Rendez-vous vendredi prochain, 20h, sur France Culture, évidemment.